Le journal Adia Chipuku. Nouveau rebondissement dans l'affaire des Congolais refoulés de l'Angola au Katanga. Les candidats au retour sont maintenant retenus en terre angolaise où ils sont soumis à des travaux forcés. Information livrée par les autorités de la localité de Kapanga. Grève dans les régies financières de la RDC, les conséquences commencent à se faire sentir. Gros plan dans certains coins du pays, c'est tout à l'heure dans ce journal. La France renouvelle son engagement à aider la RDC sous sa troisième république. L'ambassadeur de l'Hexagone à Kinshasa, Bernard Prévot, l'a dit à l'occasion de la fête nationale française ce samedi 14 juillet. Bonjour à tous. Nouveau rebondissement dans l'affaire des Congolais refoulés de l'Angola dans le territoire de Kapanga, en province du Katanga. D'après le médecin de la zone de santé de Kapanga, le rythme des arrivants a sensiblement diminué cette semaine. Et pour cause, les candidats au retour sont retenus en terre angolaise où ils sont soumis à de travaux forcés. La délégation du Conseil de sécurité du territoire de Kapanga s'est rendue en terre angolaise jeudi dernier et a vivement protesté contre ce traitement inhumain. Correspondance de Lubumbashi avec Dona Chimbo.
Cette délégation était conduite par l'administrateur de territoire Benjamin Ikombe. Le long des 160 km de parcours, elle a croisé plusieurs dizaines de refoulés qui revenaient à pied, se dirigeant vers Kapanga. Nombreux sont les femmes et les enfants, très affaiblis et malades, précise le docteur Siméon Kachal, qui a fait partie de la délégation. Les refoulés ont informé à l'autorité que d'autres compatriotes se cacheraient en brousse en Angola pour échapper aux travaux forcés auxquels les soumettent les militaires angolais. Pour en avoir le cœur net, la délégation congolaise décide de traverser la rivière Kasaï qui constitue la frontière. Elle surprend effectivement trois Congolais en train de fabriquer des briques pour les militaires tenant le dernier poste frontalier. Et ils étaient là depuis trois jours, contre leur gré. Pourquoi ce traitement? C'est parce qu'ils n'avaient pas à manger, répondent les militaires angolais. Puis, ils présentent des excuses. Après avoir vivement protesté contre ce traitement dégradant, la délégation a récupéré les trois compatriotes et regagné Kapanga hier vendredi. Lubumbashi, Dona Chimbush, Radio Okapi.
Grève dans les régies financières de la RDC, la situation reste stagnante, toujours pas de reprise de travail. Les agents de l'OFIDA, la DGRAD et la DGI exigent le paiement de leur prime de rétrocession. Mais quelles sont les conséquences de cette grève à travers la RDC? Faisons le tour du pays, notamment à Kasumbalesa, ville du Katanga, frontalière à la Zambie, où une centaine de camions se trouvent bloqués depuis bientôt une semaine, Prosper Moulobé.
Les conséquences de la grève observée par l'OFIDA depuis le début de la semaine se font déjà sentir à la frontière de Kasumbalesa. Près d'une centaine de camions appartenant aux différentes compagnies étrangères sont immobilisés en territoire congolais depuis bientôt 6 jours. La plupart de ces camions transportent des concentrés de cuivre en provenance de Likasi et de Kolwezi pour la Tanzanie et l'Afrique du Sud. Les chauffeurs de ces camions se plaignent des mauvaises conditions de vie. Ils n'ont plus d'argent, plus de provisions. Ils éprouvent d'énormes difficultés pour accéder aux installations sanitaires et à l'eau potable auprès des résidents de Kasumbalesa. Et le visa de certains d'entre eux expire déjà. Un chauffeur tanzanien de la compagnie Flying Cargo affirme qu'il est même tombé dans les filets de la police des sûretés routières pour avoir occasionné un embouteillage sur la nationale. Ce chauffeur déclare avoir déboursé sans aucun reçu une somme de 65 dollars américains et 10 500 francs congolais comme amende. L'inspecteur de l'OFIDA, quant à lui, se dit incapable de pallier à cette situation car, précise-t-il, le syndicat n'a autorisé que les opérations de transfert des véhicules en provenance de la Zambie vers Lubumbashi et non l'inverse. Depuis la cité frontalière de Kasumbalesa, Prosper Monobé, Radio Okapi.
À Matadi, dans le Bas-Congo, ce sont les services opérant au port qui en pâtissent. Ils ne peuvent plus fonctionner normalement, Daniki Ndandita.
Bureau fermé, absence des agents de l'OFIDA, c'est ce que l'on observe en arrivant au port de Matadi depuis lundi dernier. Cette situation a des répercussions négatives sur le travail de l'OCC, le GEFREM, la SONAS et l'ONATRA. Selon le directeur du département des ports maritimes Matadi, Simba Nsiama, le manque à gagner dû à cette situation a entraîné le report de la paie des heures supplémentaires au niveau de son office. À travers la ville de Matadi, les gros véhicules sont mobilisés dans les enclos car tous les circuits du guichet unique sont fermés. À ce qui concerne les conséquences du manque à gagner pour les comptes du trésor public, aucune autorité de service concerné n'a voulu faire des déclarations, mais on peut imaginer qu'elles sont énormes. Le président de la délégation syndicale de l'OFIDA Bas-Congo, Michel Mvumbi, affirme, je cite, Nous attendons un mot de la part de notre président national à Kinshasa avant toute décision de reprise du travail. Depuis le port international de Matadi, Dani Kindanzita, Radio Okapi.
Autre illustration des conséquences consécutives à la grève qui secoue les régies financières au port de Boma, des opérateurs économiques et autres particuliers partis pour dédouaner leurs marchandises ne savent plus à quel sens se vouer. C'est le cas de Sylvain Toumba. Il s'est rendu à Boma pour dédouaner son véhicule et la grève l'a surpris là-bas. Il raconte son désarroi au téléphone de Blaise Chindani.
Je suis à Boma pour le dédouanement de mon véhicule. Mais avec la situation que nous connaissons ici, on s'est dit que cette grève laisse vraiment à désirer. Pour l'instant, il n'y a pas encore une solution possible. Les opérateurs économiques en souffrent beaucoup. Et nous sommes là, ça fait déjà une semaine, le bateau est arrivé, mais on ne sait pas mener des démarches. Il faut attendre que l'ordre puisse venir de Kinshasa. Cette situation est en train de nous mettre vraiment en difficulté. Moi, peut-être c'est le problème des véhicules. Et les autres qui ont des problèmes de marchandises, qui doivent livrer dans des sociétés suivant un délai bien déterminé. Qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là si le délai imparti touche déjà à sa fin? Nous arrivons ici, nous n'avons pas de famille, nous devons loger dans un hôtel où nous payons tous les jours et ce sont des frais qui n'étaient pas prévus. On savait peut-être qu'on pouvait faire 3, 4 jours, 5 jours, on termine l'affaire. Maintenant, c'est question de semaines, ce n'est plus question de jours, question de semaines.
Autre chose à présent, deux députés provinciaux sont à la barre à Mbandaka. Ils sont poursuivis suite à une plainte déposée par le gouverneur de province de l'Équateur et son adjoint. Selon le président du tribunal de grande instance de Mbandaka, la première audience publique du procès a eu lieu hier. Que reprochent le gouverneur et son adjoint à ces deux députés? Réponse dans cette correspondance de Dominique Wolombi.
Le gouverneur José Makila et son fils Jean-Claude Bayende accusent les deux députés Inenge et Vambia des tentatives d'imputation dommageable et des tentatives de détournement des 130 000 $ envoyés par le gouvernement central pour couvrir les festivités du 30 juin dernier. La gestion de ces 30 000 $ avait fait l'objet des bras de fer entre les députés provinciaux et le gouvernorat. Le vice-gouverneur Bayende affirme que les deux accusés s'étaient mis en vedette dans cette dispute. Des accusations que rejette en bloc l'honorable Guy Inenge, contacté à partir de Kinshasa où il se trouve présentement. Le président du tribunal de grande instance a renvoyé l'audience au 31 août prochain à la demande des accusés qui avaient besoin des temps pour préparer leur défense. Pour l'honorable Guy Inenge et son collègue Vangbia, seule la cour d'appel peut les juger compte tenu de leur statut de député provincial. De Mbandaka, Dominique Wolombi Mongapange, Radio Okapi.
Au Sud Kivu, le bureau de l'Assemblée provinciale a finalement reçu ce samedi matin 36 exemplaires du projet de budget élaboré par le gouvernorat de province. Selon le rapporteur de l'Assemblée, les exemplaires du projet de budget seront au cours de la journée remis aux 35 honorables députés provinciaux qui ont jusqu'à mardi pour s'en imprégner. Hier, les députés provinciaux avaient jugé indigne la forme du projet remis par le gouverneur de province et avaient donné jusqu'à ce samedi pour sa remise dans une forme plus présentable. La défense du projet de budget par le gouverneur est prévue le mardi prochain. La France renouvelle son engagement à aider la République démocratique du Congo sous sa troisième république. L'ambassadeur de l'Hexagone à Kinshasa l'a dit à l'occasion de la fête nationale française ce samedi 14 juillet. En mars dernier, des accords entre les deux pays avaient été signés. Il s'agit d'au moins 300 millions de dollars pour 5 ans comme aide française au développement de la RDC. Y a-t-il un suivi de cette coopération? Écoutez la réponse de l'ambassadeur français Bernard Prévost.
Nous voulons faire un effort particulier, concentré sur trois domaines, l'éducation, la santé et la protection de l'environnement. Nous voulons aussi mettre au point très rapidement des actions concrètes, de façon à ce qu'on voit des actions dans les semaines, dans les mois qui viennent se développer avec la participation de la France, entre autres, et il y a nécessité d'assurer un suivi régulier de ces opérations et de communiquer sur ces opérations de façon à ce que la population n'ait pas le sentiment qu'on se contente de discours mais qu'il y a vraiment des actes réels qui s'opèrent pour l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est tout le sens aussi de notre action à côté des amis congolais. Il y a un calendrier des rencontres pour une coordination entre nous et un bilan de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, de ce qui est à relancer. C'est essentiel, mais cela doit se faire et se fait régulièrement depuis quelques mois.
Bernard Prévost s'exprimait au micro de Georges Kamoudjova. Sachez aussi que l'ambassadeur français sera l'invité de Radio Okapi lundi à 8h30, heure de Kinshasa. Un mois présent sur cette affaire des casques bleus indiens qui seraient impliqués dans le trafic d'or avec des FDLR, la MONUC a annoncé hier l'ouverture d'une enquête indépendante. Notez pour la petite histoire qu'une dépêche de l'agence française AFP publiée hier a indiqué que des casques bleus indiens auraient, pendant des mois, en 2005 et 2006, échangé des rations alimentaires et du renseignement contre de l'or et des dollars avec des rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR. L'agence française a cité comme source des documents internes à l'ONU et les témoignages de plusieurs responsables de la MONUC qui ont requis l'anonymat. Le porte-parole de la mission onusienne au Congo, Kemal Saiki, précise que l'enquête sera indépendante. Il a été interrogé par l'équipe Elamondo.
Dès que ces allégations ont été portées à la connaissance de la mission, il y a eu ensuite l'ouverture d'une enquête par les services d'investigation interne des Nations Unies. Et cette investigation est actuellement en cours. La pratique dans les Nations Unies, c'est que nous ne faisons pas de commentaires sur les enquêtes qui sont en cours. Je tiens à préciser néanmoins que l'enquête qui est effectuée par les services de vérification interne est une enquête qui est totalement indépendante. Quand bien même elle aurait été initiée par la MONUC elle-même, une fois que le processus démarre, la MONUC n'a plus aucune capacité d'influence, de droit de regard ou d'information sur un processus qui est totalement indépendant.
Cette énième affaire de trafic qui met en cause quelques casques bleus, ne risque-t-elle pas d'éternir l'image de la MONUC?
Nous avons des règles du jeu. Nous avons des codes de conduite auxquels nous devons nous conformer, dans la société ou dans les missions de maintien de la paix. Cela ne veut pas dire pour autant, malheureusement, que tout le monde s'y conforme. Et c'est pour cela aussi que nous avons des polices, des tribunaux, des maisons carcérales, des systèmes de punition de ceux qui ne respectent pas les règles. Nous savons par exemple à Kinshasa qu'il y a des problèmes de criminalité, des viols. Est-ce que cela veut dire pour autant que c'est l'image générale de tous les Kinois qui est ternie? Je ne le crois pas.
Kemal Saiki a aussi affirmé que l'autre enquête qui avait mis en cause les casques bleus pakistanais dans le trafic d'armes et de l'or à Mongwalou en Ituri est arrivée à son terme et le résultat a été rendu public. Paraphrasant Jean-Marie Guénaud, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, le porte-parole de la MONUC affirme que cette enquête révèle qu'il n'existe pas de preuves qui confirment qu'il y ait eu trafic d'armes. Par contre, les conclusions de cette enquête ont établi la responsabilité d'un seul individu, un casque bleu pakistanais. Les conclusions ont été transmises aux autorités pakistanaises. L'ONU espère que celle-ci prendrait des dispositions disciplinaires à l'encontre du coupable, ajoute Kemal Saiki. Restons justement en Ituri avec le vol de plus de 300 poteaux électriques de l'axe Boudana-Chumia sur une distance de 15 km. Selon certains témoins, des hommes en uniforme seraient à l'origine de ces vols. Information confirmée par les responsables de l'office d'or de Kilomoto, Okimo, société qui gère le courant électrique en Ituri. De leur côté, les autorités militaires disent n'être pas au courant de cette situation. De Bounia, Isaac Remoyope nous fait le point.
Selon certains habitants du quartier Bankoko, trois militaires armés ont été surpris il y a deux semaines en train de découper des poteaux électriques à l'aide des scies à métaux. Les chefs du même quartier Bankoko indiquent avoir également trouvé la semaine dernière un poteau déjà coupé dans la brousse. Ounen Ukaba témoigne.
La population, les chefs d'avenue sont venus me voir ici au bureau pour m'informer que ceux qui ont des champs dans la concession de Kilomoto trouvent des hommes armés en uniforme en train de couper des poteaux et les transportent. J'ai même comme preuve un poteau ici au bureau.
Ces informations sont confirmées par les directeurs du secteur énergétique de l'Okimo sans toutefois préciser le nombre de poteaux volés. De leur côté, les autorités militaires disent n'avoir jamais reçu de plainte sur l'implication des militaires dans les vols des poteaux. Les porte-parole des FARDC en Ituri accusent plutôt des civils sans toutefois nier la responsabilité de certains éléments incontrôlés des FARDC. Le capitaine Olivier Mputu.
C'est vous qui m'informez, mais toutefois nous reconnaissons avoir arrêté des gens impliqués dans les vols de câbles. Et pas plus tard qu'hier, deux civils dans le quartier Opas ont été vus transportant un poteau électrique. On ne peut pas gratuitement comme ça dire que ce sont des militaires. Oui, peut-être. Pourquoi pas des éléments isolés, incontrôlés?
Les éléments des forces de l'ordre demandent à la population d'être vigilante et de dénoncer ces vols pour décourager ces actes inciviques. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
En page internationale, signalant ce remaniement ministériel au Burundi, les tout nouveaux ministres qui entrent au gouvernement Nkurunziza sont au nombre de 8 sur les 21 ministres qui constituent le gouvernement Nkurunziza. Les deux principaux partis au pouvoir s'insurgent contre ce gouvernement qui, selon eux, a été fait en violation de la Constitution. L'annonce de ce gouvernement est intervenue vendredi. Chantal Gatoré nous appelle du Burundi.
Sur 21 ministres, 8 seulement sont nouveaux. Les 13 autres ont été reconduits. Ces nouveaux visages du gouvernement Nkurunziza sont Nizigama Clotilde, ministre des Finances, Michayenzi Estella, ministre du Commerce et de l'Industrie, Asabamagara Joseph, ministre des Travaux Publics, Njoni Philippe, ministre des Transports, Saïngouvou Yves, ministre de la Santé Publique, Kinigi Daniel, ministre de la Fonction Publique, Nahayo Immaculé, ministre de la Solidarité et Karenga Ramadani, ministre de l'Intégration Régionale. Le porte-parole du président, Leonidas Atungimana, qui a lu le communiqué de ces nominations, a proféré des menaces à l'endroit de quiconque tenterait de perturber l'ordre et la sécurité publique après l'annonce de ce nouveau gouvernement. Les deux principaux partis de l'opposition, l'UPRONA et le FRODEBOU, se sont inscrits en faux contre ce gouvernement qui n'a pas respecté la Constitution, selon eux. De Bujumbura, Chantal Gatoré pour la Radio Capi.